Alors, merci Pierre et toute son équipe pour ces beaux chants. Bon matin à vous tous. Ce matin, nous continuons notre étude systématique du livre de l'Apocalypse. Alors, je vous invite à prendre vos Bibles et trouver le 14e chapitre de l'Apocalypse. Apocalypse, chapitre 14. Et nous allons lire à partir du verset 1er. Alors, Apocalypse 14, 1. « Je regardais, et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes. » qui avait son nom et le nom de son père écrit sur le front. J'entendis du ciel une voix, comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre. Et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe jouant de leur harpe. Ils chantaient un cantique nouveau devant le trône et devant les quatre êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique, si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, ils ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irréprochables. Gardez votre droit dans Apocalypse 14 et tournez, s'il vous plaît, pour un texte parallèle qui se trouve dans Psaume 2. Texte qui est très important en relation avec ce texte que nous avons lu, Psaume 2. Et nous allons lire à partir du verset 1er. Psaume 2, verset 1, « Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son roi? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux et rit. Le Seigneur se moque d'eux, puis il leur parle dans sa colère. Il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai roi, mon roi sur Sion, ma montagne sainte. » Et le titre de ce message ce matin, je l'ai appelé « Les champions de Dieu ». Car dans ce texte, nous avons un portrait de trois champions. Et vous savez, tout le monde est impressionné par les champions, ceux qui remportent la victoire. Vous avez sans doute entendu parler du boxeur légendaire afro-américain, Muhammad Ali. Lui, c'était un champion dans tous les sens de ce mot. Même il a été nommé sportif du 20e siècle à cause du fait qu'il a accompli des exploits remarquables. En 1960, l'âge de 18 ans, il était un médaillé d'or aux Jeux olympiques de Rome. En 1963, le nomme boxeur de l'année. En 1964, il est le champion du monde chez les poids lourds. Entre 64 et 67, il va défendre avec succès son titre de champion. Et il est le seul boxeur dans toute l'histoire de la boxe qui a perdu et reconquis le titre de champion, et cela à trois reprises. Mais ce matin, j'aimerais souligner trois choses qui caractérisaient ce boxeur extraordinaire. Tout d'abord, sa force. Au sommet de sa carrière, c'était un athlète superbe qui cognait avec une force incroyable. Il avait un jeu de jambes extraordinaire. On disait qu'il dansait littéralement dans le ring. Très difficile pour ses adversaires de l'attraper puis de lui donner des coups. Et sa confiance en lui-même. Et en plus, le mépris qu'il témoignait à l'égard de ses adversaires. Il allait même jusqu'à composer des poèmes dans lesquels il prédisait dans quel round il mettrait ses adversaires KO. Et vous savez, son patois, c'était « I am the greatest ». Je suis le plus grand. Je flotte comme un papillon, mais je pique comme une abeille. Et il rendait ses adversaires furieux en leur donnant des surnoms. Tels que Ours Noir, ça c'était pour Joe Frazier. Ou le Lapin, c'est Floyd Patterson. Ou encore la Gorille, ça c'était George Foreman. Alors c'est pas surprenant qu'on l'avait nommé le Bavard de Louisville. Ça c'était sa ville natale. Peut-être on aurait dû l'appeler le baveux de Louisville. Mais qu'importe, et malgré ce côté agaçant de son caractère, il est reconnu comme un vrai boxeur, un vrai champion dans le monde de la boxe. Et vous savez, je fais le parallèle parce que ce matin, vous et moi, nous sommes appelés à être des champions, des vainqueurs pour Dieu. Vers la fin de sa vie, l'apôtre Paul va utiliser aussi une métaphore semblable. Il va dire, « J'ai combattu le bon combat. » Et si vous lisez le reste de ce texte, vous allez remarquer que Paul était certain d'avoir remporté la victoire. La question que je vous pose ce matin, qu'en est-il pour vous ce matin? Est-ce possible que malgré le fait que Dieu s'attend à ce que vous soyez un champion, vous êtes en train de vivre une défaite? Est-ce possible que les adversaires, le monde, la chair et le diable vous ont envoyé au tapis et vous avez la difficulté à vous relever? Est-ce possible que même ce matin, vous songez à lancer la serviette et abandonner le combat? J'aimerais vous encourager parce que dans le monde de la boxe, il y a ceux qui avaient été envoyés au tapis, mais qui se sont relevés et qui ont même remporté la victoire. Et j'aimerais vous encourager ce matin en regardant notre texte, regardez les exploits de Dieu. Dans un contexte où il semble que, et je dis bien, il semble que l'adversaire a gagné. Dans un contexte où Satan est en train de faire démontrer, parader justement devant le monde son champion, l'Antichrist. Et dans un contexte où la plupart des habitants du monde, en voyant ce champion, l'Antichrist, crient « You are the greatest !» Qui est semblable à la bête? Et dans un contexte où est-ce que même ce dernier, l'Antichrist, va blasphémer Dieu, j'aimerais vous encourager à vous relever. Si vous êtes en train de vivre une défaite. Et regardons comment est-ce que Dieu agit dans ce texte. Mettre vos adversaires KO en trois coups. Et vous pouvez le faire. Alors tout d'abord, premier coup à donner. Puisez dans la force du Christ conquérant. Puisez vos forces dans la force du Christ conquérant. Regardez votre texte, s'il vous plaît, au verset 1er, Apocalypse 14. Jean va dire ceci, « Je regardais, et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Dieu. » L'agneau se tenait sur la montagne de Dieu. Avez-vous remarqué que l'apôtre ne dit pas « L'agneau était sur la montagne de Dieu » ou bien « L'agneau était couché sur la montagne de Dieu » ou « L'agneau se reposait sur la montagne de Dieu » Ces paroles sont « L'agneau se tenait sur la montagne de Sion ». Et dans le texte original, le mot traduit par « se tenait » va être traduit par le mot « debout » ou « placé » ou « posé » ou « faire tenir ferme », »,« rendre ferme », »,« faire tenir en place », »,« établir », »,« maintenir », »,« subsister ». La parole de vie écrit ce texte comme ceci, « Je vois l'agneau debout sur la montagne de Sion ». La parole vivante dit ceci, « Je vis l'agneau qui se tenait debout sur la montagne de Sion ». Et ça a dû être un encouragement puissant pour l'apôtre Jean et pour ses lecteurs dans un contexte où est-ce qu'on voit que toute la terre presque est en train de suivre la bête, où les habitants de la terre se prosternent devant la bête et devant son image. On voit dans le chapitre 14 le champion de Dieu, l'agneau de Dieu qui est debout sur la montagne de Dieu, de Sion. Alors l'agneau est là, placé par Dieu. Le texte nous dit, ce mot veut dire faire tenir, rendre ferme, subsister. Il est là. Malgré ce qui se passe sur la terre, l'agneau est là. Mais qui est cet agneau? Vous savez, Jean-Baptiste, en voyant le Seigneur Jésus-Christ, a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors nous pouvons tout de suite l'identifier comme Jésus-Christ. Mais j'aimerais vous faire remarquer une différence ici ce matin. Quand Jean-Baptiste a parlé du Seigneur Jésus-Christ qui ôte le péché du monde, c'est dans un autre contexte. Il parlait du Christ souffrant. Le Christ qui a été maltraité, l'agneau qui a été maltraité, opprimé. L'agneau qui a été amené comme une brebis à la boucherie, ça c'était dans les évangiles. Le Christ souffrant. Il n'a point ouvert la bouche. Mais dans ce contexte ici, dans Apocalypse 14, vous avez le Christ, pas souffrant, vous avez le Christ conquérant. Et Psaume 2 dit ceci à propos du Jésus, « J'ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. » Et Christ est là. Non pas pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Parce que dans Luc chapitre 4, il va dire ceci, « L'Esprit de l'Éternel est sur moi parce qu'il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé et pour publier une année de grâce. » Mais ce n'est pas ça dans ce contexte ici. En Nazareth, il va arrêter, il ne va pas continuer parce que c'était l'année de grâce. Mais dans Apocalypse chapitre 14, c'est là où est-ce qu'il va continuer maintenant, Ésaïe 61, et publier une année de vengeance de notre Dieu. Et ça, c'est le contexte de ce texte ici. L'agneau sur la montagne de Sion, dans toute sa puissance, avec toute sa force, pour vaincre les ennemis de Dieu. Et cette puissance-là va découler non seulement du fait qu'il est loin de Dieu, le roi incomparable, mais aussi à cause de l'endroit où il se trouve, la montagne de Sion, la montagne sainte de Dieu. La Bible en parle longuement sur la montagne sainte. Ce matin, ce n'est pas mon but justement de rentrer dans tous les détails, mais j'aimerais juste vous faire remarquer deux choses. Cette montagne-là réfère à un endroit littéral. Psaume 48 nous dit ceci, « Belle est la colline, joie de toute la terre, la montagne de Sion, c'est la ville du grand roi. » Et cette montagne aussi est associée avec un règne. Christ va régner. Ésaïe 24, 23 nous dit ceci, « L'Éternel des armées régnera sur la montagne de Sion à Jérusalem, resplendissant de gloire en présence de ses anciens. » Alors, en résumé, Dieu a choisi son fils, l'agneau, pour être roi, mais Dieu aussi lui a donné un royaume. Et la plupart des commentateurs vont nous dire ici, c'est ce texte parle de la règne de Christ pendant le millénaire, où est-ce que Christ va régner comme un chef suprême sur un royaume inébranlable. Et juste pour faire un contraste par un de son royaume, dans l'Apocalypse chapitre 12, on voit Satan qui est là, et le texte nous dit que l'ennemi Satan, le dragon, se tient sur le sable de la mer. Ça, c'est la position de Satan, Apocalypse 12, 8, il est sur le sable de la mer. Chers amis, ce matin, l'agneau de Dieu est sur la montagne de Sion. Lequel est le plus solide? Le sable ou une montagne? Vous savez, dans la Bible, les montagnes sont les illustrations, des métaphores de ce qui est solide, inébranlable. Et Christ va justement prendre le contrôle de ce royaume. Et rien dans ce monde qui justement puisse bouger ou faire bouger justement la puissance de ce royaume. Psaume 2 dit ceci, « Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. » Puissance absolue pendant le règne de Christ, pendant le millénaire. Et ça, c'est la force que Christ va posséder. Le Christ conquérant. Vous savez, il y a beaucoup de contrastes. J'ai mentionné le contraste entre la montagne et le sable. Mais si vous regardez le passage d'Apocalypse, chapitre 14, si vous faites le contraste avec chapitre 13, ça va vous aider à mieux comprendre qu'est-ce qui se passe dans ce texte ici. On a parlé de la puissance de Christ. Mais si vous faites le contraste avec la puissance de la bête, parce que le monde est émerveillé, il semble que Dieu a perdu le contrôle. Mais vous savez que le dragon a donné sa puissance à la bête. Mais le dragon n'est pas le tout-puissant. Et quand Jésus-Christ, après sa mort et sa résurrection, qu'est-ce qu'il a dit à ses disciples? Tout pouvoir m'a été donné sur la terre et dans le ciel. Alors son royaume est inébranlable. Le royaume de la bête est éphémère. Elle va durer 3 ans et demi, 42 mois. Le royaume de Christ est éternel. 1000 ans pendant le millénaire et ensuite pour toute l'éternité. L'autorité de la bête est grande. Apocalypse 13, 2. Le dragon lui donne une grande autorité. Plusieurs vont recevoir sa marque et vont l'adorer. L'autorité de Christ est infinie. Philippiens chapitre 2, Dieu lui a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alors Dieu n'est pas impressionné par ce qui se passe dans Apocalypse 13. Satan a son champion, oui, l'Antichrist, mais Dieu aussi est son champion. Le Seigneur Jésus-Christ. Le Christ, le Tout-Puissant. Et si vous voulez comparer les deux combattants, donc, Jésus n'a jamais perdu un combat. Jamais. Alors, c'est ceux qui vont en sortir vainqueurs. J'aimerais ce matin vous encourager pour vous dire que la puissance de Christ est aussi votre puissance. C'est notre puissance. La Bible enseigne que les croyants, nous sommes un avec Jésus. Ça, c'est la doctrine de Romains chapitre 6. Je n'ai pas le temps d'y rentrer ce matin, mais nous sommes un. Nous sommes devenus une même plante avec lui par sa résurrection et dans sa mort. Alors, sa force est notre force. Sa victoire est notre victoire. Mais de façon pratique, dans le pratico-pratique, comment est-ce qu'on peut expérimenter la force de Christ dans notre vie et porter ce premier coup contre nos adversaires? Vous savez, la première chose, pour être fort, il faut se reconnaître faible. La Bible dit dans Galates, 1 Corinthiens 10-12, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Alors, on commence là. Et quand on reconnaît nos faiblesses, quand on sait que sans le Christ, on ne peut rien faire, là, on peut devenir devant le Seigneur et demander d'être fortifié. Et regardez à travers les évangiles et aussi à travers les épîtres, vous allez voir que Paul, plusieurs fois, quand il prie pour les chrétiens, il va demander à Dieu qu'il les fortifie par son esprit dans l'homme intérieur. Il va prier aussi pour les Éphésiens en demandant à Dieu qu'il ouvre leurs yeux, il illumine les yeux de leur cœur afin qu'ils sachent quelle est l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Et dans sa vie, Paul avait un désir, il a dit, de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Paul voulait connaître cette puissance. Est-ce que c'est un prière que Dieu va exaucer si vous demandez cette force, cette puissance pour vivre la vie chrétienne? Mais oui, bien sûr. Psaume 68, 29 nous dit, « Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. » Et ma prière pour vous et pour moi, que c'est que nous soyons comme les premiers disciples. Vous savez, ils étaient dans cet endroit-là où ils ont prié. Ils avaient été menacés de pas parler au nom de Jésus. Ils ont prié et la Bible nous dit que le lieu où ils étaient tremblait. Ils soyaient remplis du Saint-Esprit, annonçaient la parole avec puissance. Que le Seigneur justement nous visite et nous donne justement cette puissance pour vivre une vie chrétienne qui va mettre notre ennemi et nos ennemis KO. Alors ça, c'est le premier coup à porter si on veut apporter remporter une victoire contre notre adversaire. Deuxième chose, deuxième coup. Si on veut vivre une vie victorieuse, on veut remporter la victoire, il faut imiter la foi de la chorale céleste. Devant la force de Christ, nous avons la foi de la chorale. Gardez votre texte, s'il vous plaît, au verset 2. J'entendis, et remarquez l'endroit du ciel. L'agneau est sur la terre, mais j'ai entendu maintenant du ciel. Ça s'en va au ciel. Une voix, comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre, et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe, jouant de leur harpe, ils chantaient un cantique nouveau, etc., etc. Et tout de suite ici, nous avons un contraste. Sur la terre, nous avons la bête qui ouvre sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Mais dans le ciel, nous avons ceux qui ouvrent leur bouche pour adorer Dieu. Ça, c'est le contraste. Et j'aimerais vous faire une application qui est très importante ici. La terre n'est pas l'endroit où il faut regarder pour remettre les pendules à l'heure. Si vous regardez ce qui se passe dans ce monde, vous allez vous tromper royalement. Et pourquoi? Mais parce que le monde et ce système du monde, pour utiliser l'expression de Michel, a été tricoté par le diable et ses acolytes. Et Satan est menteur et père du mensonge. Vous la voyez là juste? regarder au ciel. Ce matin, les hommes blasphèment Dieu. Ce n'est pas la vérité. Au ciel, on adore Dieu. On pourrait se poser la question, qui sont ces joueurs de harpe? Quelqu'un va me suivre pour enseigner l'Apocalypse chapitre 15. Je ne volerai pas son punch ce matin, mais je veux vous dire ici, si vous faites un fast-forward à chapitre 15 et le verset 2, vous allez voir que ces personnes réapparaissent là. Je vis une main, Apocalypse 15, 2, mêlée de feu et ceux qui avaient vaincu la bête, remarquez bien son image, et le nombre de son nom était debout sur la mer de vin, ayant des harpes de Dieu, y chanter le cantique, etc., etc., etc. Alors, fort probablement, ces personnes-là, ces joueurs de harpe, sont des martyrs qui ont passé dans la grande tribulation et qui ont été martyrisés parce qu'ils ont refusé d'adorer la bête, son image, et de prendre son nom. Et ce matin, ce qui me frappe dans ce texte, c'est ce qui caractérise justement ces martyrs. Pourquoi est-ce qu'ils ont été martyrisés? Vous savez, c'est parce qu'ils ont refusé de suivre la bête. Et la seule façon qu'ils ont pu dire non, c'était à cause de leur foi en leur Dieu. Pourquoi avaient-ils refusé d'adorer l'image de la bête et de prendre son nom à cause de leur foi en Dieu? Je répète, à cause de leur foi. Quand vous êtes là devant quelqu'un là, qui veut vous dire « Maudit votre Dieu » ou « Meurs », mais qu'est-ce qui va faire en sorte que vous allez résister et vous allez tenir ferme, sinon votre foi dans Dieu, dans sa parole, dans sa personne, dans la vérité. Ils ont préféré mourir plutôt que renier le nom de notre Dieu parce qu'ils avaient une foi qui était inébranlable. Et même face à l'adversaire, dans l'adversité la plus extrême, cette foi-là a su tenir bon. Ils ont su triompher. J'aime beaucoup les paroles d'apôtre Jean qui s'appliquent à ce stade-ci. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Ce sont des vrais chrétiens véritables qui ont saisi par la foi la grâce de Dieu. Et tout ce qui est né, un vrai enfant véridique, authentique de Dieu, sa foi va triompher du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon, c'est celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Et ça, c'était la déclaration de ces martyrs quand tout le monde disait « Qui est semblable à la bête? » Et l'adorait. Les autres, ils disaient non, non, non. Jésus seul est Seigneur. Ils ont refusé d'adorer l'imposteur. Ils ont refusé de suivre l'Antichrist à cause de cette foi inébranlable qui procédait. Et voilà pourquoi ils sont au ciel. Ils sont au ciel. Ils ont été mis à mort, mais ils se trouvent au ciel dans la présence de Dieu, en train de chanter ses louanges. J'aimerais vous poser une question ce matin, très pratique. Est-ce que vous seriez au ciel un jour? C'est une bonne question, hein? Est-ce qu'on va vous trouver un jour en train de chanter justement comme les joueurs de harpe, des louanges de leur Dieu? Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui disent oui à cette réponse et ils se basent sur une bonne vie, de bonnes œuvres. La Bible nous dit que ce n'est pas la grâce qu'on est sauvé. par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Alors personne ne sera au ciel à cause de ses œuvres. Vous avez des parents chrétiens peut-être ce matin, et vous dites, ah, mes parents sont chrétiens, alors je suis correct. Jean chapitre 1, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, la parole de Dieu, les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, il n'y a pas de relation familiale dedans, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et les joueurs de harpe sont au ciel à cause d'une seule raison, parce qu'ils ont mis leur foi dans le sacrifice seul de Jésus-Christ sur la croix pour le pardon de leurs péchés. Et ce matin, si vous voulez être au ciel, vous vous trouvez au ciel en train de chanter les louanges de Dieu, il faut aussi que vous mettiez votre foi seul dans le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix pour le pardon de vos péchés. La question que je vous pose, est-ce que vous l'avez fait? Alors, exercer la foi pour louer Dieu, oui. Une excuse pour être au ciel, oui, parce qu'ils sont au ciel. Mais si vous êtes chrétien aussi, il y a un deuxième volet à cela. Parce que pour louer Dieu, c'est ce que les joueurs de harpe sont en train de faire. Ils chantent un cantique nouveau. Ça aussi, ça prend de la foi. Vous savez, juste pour vous dire que le cantique nouveau, rapidement ici, c'est un cantique de louange. Si vous prenez le temps de regarder l'Ancien Testament et étudier le cantique nouveau dans des psaumes, il y en a de psaumes 33, psaumes 40, psaumes 85, etc., on voit que c'est un cantique qui ressemble un peu à celui que les enfants d'Israël ont chanté lorsqu'ils ont été délivrés de l'esclavage en Égypte. Et c'est un cantique qui, si vous regardez le contenu, il y a toujours des louanges envers Dieu pour de nouvelles bontés et de nouvelles compassions. Et je vous cite une citation de Robert Thomas qui, dans son commentaire, a dit ceci. Le nouveau cantique célèbre une œuvre puissante que Dieu a accomplie et fournit au récipiendaire un nouvel élan de reconnaissance et de joie. Alors, on regarde Dieu, il a fait une œuvre extraordinaire et ça donne un nouvel élan, justement, pour être reconnaissant et être rempli de joie. Le nouveau cantique de l'Apocalypse célèbre l'inauguration d'une nouvelle âge victorieuse basée sur l'œuvre rédemptrice de l'agneau. C'est pourquoi ils sont en train de chanter. Avec un élan d'adoration, ils savent que maintenant que Dieu va prendre possession de son royaume et régner en roi. Et vous savez, comme j'ai dit, pour être capable de louer Dieu, parce que dans la vie chrétienne, et vous savez aussi, je ne vous apprends rien ce matin, des fois ça va mal. On a des épreuves. On a des difficultés. Tout semble être noir. Tout semble être perdu pour la cause de Dieu. Vous avez mis beaucoup d'efforts et là, vous vous trouvez dans les épreuves. Êtes-vous capable de louer Dieu dans ce contexte? Mais ça prend de la foi. Et ces joueurs de harpe qui ont passé par la grande tribulation, qui ont connu le martyre, sont là en train de regarder le trône de Dieu et de focaliser sur la personne de Dieu et de lui donner gloire par le chant. Et vous savez, il n'y a rien de plus triste qu'un chrétien qui a perdu son chant, sa joie, son élan de reconnaissance. Et comme je vous dis, la vie peut nous amener des coups durs. Et parfois, à cause de cette pression, de ces épreuves, on perd notre chant. Mais par la foi dans la bonté de Dieu et ses compassions de Dieu, on peut retrouver justement ce nouvel élan de reconnaissance et de joie. Ne soyez pas comme ceux dans Psaume 137, des exilés, des enfants d'Israël qui sont sur les bords des rivières en Babylone. Et on dit, on a suspendu nos harpes. Chantez plus. Vous savez, j'aimerais juste vous encourager que si vous avez perdu votre chant, regardez au ciel. Quelqu'un a bien dit ceci, « It's always worship time in heaven. » C'est toujours le temps de l'adorer. On chante aussi, « Voici le temps de l'adorer. » Et qu'importe ce que vous êtes en train de vivre, et je ne veux pas non plus minimiser vos difficultés. Je sais ce que la vie peut apporter, les déceptions. Et peut-être ce matin, vous êtes ici, vous êtes abattu, découragé, vous sombrez dans la pitié de soi. Je sais que ces choses peuvent nous affecter. Mais levez vos yeux et regardez au ciel. C'est là la place à focaliser. Et voir la bonté de Dieu à la croix. Et d'ailleurs, c'est la solution que je vais vous apporter ce matin. Si vous avez perdu votre joie, la façon de le retrouver, c'est de revenir à la croix. Et la question se pose, êtes-vous un participant régulier à la table du Seigneur? C'est là qu'on retrouve notre joie. Et quand on contemple le Seigneur, quand on contemple sa bonté, quand on contemple son sacrifice, qu'il est mort pour nous, qu'il s'est sacrifié pour nous, il n'y a rien comme cela, justement pour élever nos cœurs, pour adorer son nom, qu'importe les situations dans lesquelles on se trouve. Et ça, c'est les joueurs de harpe qui sont en train de nous donner cela. Des vrais champions. Parce que si vous êtes en train de sombrer dans le découragement et dans le désespoir, l'ennemi vous a envoyé le tapis. Mais un vrai adorateur, c'est quelqu'un qui adore Dieu malgré les circonstances et qui remporte la victoire. Et ça, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et troisièmement, si on va vivre une vie victorieuse, puiser dans la force du Christ, imiter la foi de la chorale, mais apprécier la faveur imméritée, expérimentée par les célibats. Je vois que j'ai 5 minutes pour vous donner beaucoup dans ce texte. Ce texte est très riche ce matin. On va parler maintenant des 144 000 personnes. Et on peut en dire beaucoup là-dessus. Je vous sors juste 3 choses à propos de ces 144 000. La contrepartie de ceux qui sont sur la terre, qui sont en train d'adorer la bête, vous avez la contrepartie, c'est le 144 000. Moi, je les appelle les intouchables. L'Antichrist, il les tuerait s'il pouvait, mais Dieu les a marqués de son sceau. On ne peut pas les toucher. Et c'est un groupe qui, dans un premier temps, jouit d'un faveur immérité de Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu a choisi 144 000 personnes? Il les a scellés avec son sceau, il les a protégés, et Antichrist ne peut pas les toucher, et il a donné cette position de faveur, d'être collé à l'agneau et le suivre partout. Ça, c'est la grâce et la souveraineté de Dieu, immérité. Mais je pense et je suis convaincu que ces personnes-là apprécient ce que Dieu a fait dans leur vie. Et ça, c'est un premier pas vers la victoire. Quand on est capable d'apprécier ce que le Seigneur a fait pour nous, ce que nous sommes en Jésus-Christ, de savoir qui nous sommes, ça nous donne la force pour remporter la victoire. Et les 144 000, ils savent qui ils sont. Ils savent qu'ils sont des choyés. Bon, il y a un texte qui dit ici, et je dois traiter cela, en parlant de la pureté. Ils sont ceux qui ne sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Mais j'espère que nous savons tous ce que cela ne veut pas dire. On parle ici de la pureté morale. Le texte ne dit pas que pour être pur moralement, il faut être célibataire, puis si on est marié, on est disqualifié. Ça, c'est pas cela. La Bible dit que le mariage est honorable de tous. Dieu a dit, il n'est pas bon pour que l'homme soit seul. Et Paul dit, si tu t'es marié, tu t'es pas péché. Alors, c'est pas ça ce que le texte veut dire. Alors, l'intimité des époux dans le lien sacré du mariage n'est pas une souillure. Mais, en dehors du lien de mariage, ça c'est une souillure. Et ce texte nous dit que ces 144 000 personnes ont su préserver des relations d'intimité illégitimes. Et en plus de cela, ils sont aussi des célibataires. Et dans le contexte ici, oui, c'est important de remarquer cela. Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 7 qu'à cause des temps difficiles, il est bon que quelqu'un soit célibat. Et ces temps ici sont extrêmement difficiles. Alors, ceux qui ont pris des choix. Et même le Seigneur a dit aussi qu'il y a ceux qui sont des eunuques dès le ventre de la mère et ceux qui sont faits par la main d'homme. Mais aussi, il y a ceux qui sont eunuques à cause de la royaume de Dieu. Et eux, ils prennent un choix délibéré à cause du temps qu'ils ont de dire, on va rester, on va servir le Seigneur sans distraction. C'est ça que le texte veut dire. Ils vont être attachés au Seigneur. Alors, ils sont des célibats et ils sont aussi purs. Et deuxièmement, ils vont suivre l'agneau partout où il va. Ça, c'est le passion. Vous savez, la saison d'hockey a commencé et il y a des passionnés de certaines équipes. Moi, je ne mentionnerai pas la mienne de se faire lapider, c'est la scène publique. Mais vous savez, il y a des passionnés qui vont suivre justement les péripéties de leurs équipes à domicile, à l'étranger. Et dans ce contexte ici, ils sont au courant de tout ce qui se passe avec leur équipe. Et ça, c'est la même chose ici avec ce 144 000. Des fois, on chante une cantique. Dans mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Mais là, ils mettent ça en pratique. Là. Ils sont collés avec l'agneau, puis ils vont le suivre partout où il va. Et troisièmement, ils sont aussi, on dit, irréprochables. Dans leur bouche, ils ne savent point trouver le mensonge, car ils sont irréprochables. Cela ne veut pas dire qu'ils sont sans péché, mais ce sont des personnes qui savent quoi faire avec le péché. Ce sont des personnes qui jugent le péché, ce sont des personnes qui confessent leur péché, ce sont des gens qui savent que le Seigneur est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et dans ce contexte ici, ce sont ceux qui vivent une vie pure, sont passionnés et aussi une vie où est-ce qu'ils confessent le péché et ils marchent avec le Seigneur dans la vérité. Juste une application assez rapide. Vous savez, pour être utile entre les mains du Seigneur et pour remporter la victoire, ça exige une vie de pureté. Je pense à David quand il a péché avec Bathsheba. Un de ses soucis. Pour retrouver son utilité avec Dieu, il a dit, « Oh Dieu, créez en moi un cœur pur. » Et vous ne pouvez jamais être un homme ou une femme de Dieu que Dieu va utiliser puissamment si vous n'êtes pas caractérisé par la pureté. Première chose. Une passion, et on n'a pas le temps ce matin, mais une passion comme ces personnes qui sont collées à l'agneau. Et partout est-ce qu'il va, parce qu'ils sont en train d'œuvrer. Ils savent qu'est-ce qui se passe. Ça nous parle un peu des missions. Et d'autres frères vont venir parler de cela, mais il y a une application ici pour les missions ce matin. Où le Seigneur est en train d'œuvrer partout dans le monde. Est-ce que nous sommes ceux qui savent qu'est-ce qui se passe et comment sommes-nous impliqués? Et dans leur perfection, ils sont irréprochables parce qu'ils se séparent du péché. Et la seule façon de se séparer du péché, c'est de connaître la parole de Dieu, la vérité de Dieu, c'est de la lire, c'est de la méditer et de la mettre en pratique. Et ça, c'est ce qui fait en sorte qu'eux aussi sont des champions. Je termine avec une illustration. En 1974, lors de son combat épique qui a eu lieu à Kinshasa, au Zaïre, c'est maintenant aujourd'hui le Congo, République démocratique du Congo. Et les promoteurs ont appelé cela le combat de l'année. C'est encore notre boxeur Ali qui se trouve devant, cette fois, une colosse, George Foreman. C'est un boxeur qui était réputé d'être un puissant frappeur, cogneur. Invaincu dans 40 combats et 37 par KO. Ça, c'est un défi à relever pour Ali. Et pour ce combat, Ali va changer son style. Au lieu de danser au milieu du ring comme un papillon, il va plutôt boxer dans les cordes. Il va encaisser des coups puissants. Mais son but, il y avait une tactique, c'était d'épuiser son adversaire. Épuiser George Foreman. Parce que lui, il mettait ses adversaires KO, troisième, quatrième round, c'était fini. Et avec cette tactique-là, il voulait obliger Foreman de combattre plus de cinq rounds. Et Foreman, c'était comme un rouleau compresseur. Il n'y avait aucune manière de l'arrêter. Il traquait Ali, puis ainsi de suite. Et pour la première fois, ils nous disent que dans les yeux d'Ali, il y avait comme une lueur de peur. Est-ce qu'il avait mal jugé son adversaire? Comment est-ce qu'il allait arrêter justement cet adversaire formidable? Mais il ne lâche pas. Et au huitième round, il a envoyé Foreman au tapis. Foreman était au bout de souffle, épuisé. Ali a réussi à l'envoyer au tapis. Il va se relever, mais une seconde trop tard. Vous savez, on l'appelle ça, c'est la plus grande victoire d'Ali. Et sans doute, pendant ce combat qui était tellement difficile, il s'est rappelé d'une chose, « I am the greatest ». Je suis le plus grand. J'aimerais vous laisser ce matin en vous disant la même chose. You are the greatest. Vous êtes les plus grands. Vous avez la force de Dieu. Vous avez la foi de Dieu. Et vous avez la faveur imméritée de Dieu. Alors, allez et remportez la victoire. On va prier. Seigneur, te remercie pour ta grâce. Merci pour ce portrait de ces champions que tu démontres pour nous encourager. Tu as encouragé Jean et ses lecteurs et tu nous encourages aussi pour nous dire que oui, la victoire est à notre Dieu et la victoire aussi est à nous. Sépare-nous avec ta bénédiction. Nous te demandons au nom de Jésus. Amen.